Le 17 janvier 2009 s'est tenu à Arles un forum sur le thème « La décroissance, idéologie ou nécessité ». Cette rencontre réunissait l'Université populaire d'Arles, Attac Pays d'Arles, l'association Casseurs de Pub, la Confédération paysanne de Trennes, le Marais du Vignerat, l'association Oasis Carapa du Gard. Nous vous proposons d'écouter des extraits recueillis au cours de ces tables rondes et ainsi que les débats qui animèrent ce forum. Aujourd'hui, Jean-Marie Arribé, ce professeur d'économie et membre du collectif d'Attac, vous invite à suivre son cours magistral sur le thème « Les impensés de l'économie de la décroissance ».
Ça va être mon premier préalable. Tout ce que je vais dire va être au nom d'une critique radicale du productivisme capitaliste, au nom donc de l'écologie, et absolument pas pour essayer de sauver quoi que ce soit dans le mythe de la croissance économique infinie, ou dans le mythe des 30 glorieuses, que sais-je, ou encore même dans le mythe du développement durable à la mode officielle. Ça, c'est mon premier préalable. Le deuxième, pour dissiper un éventuel malentendu également, et de dire que mon propos ne vise jamais à mettre en doute en quoi que ce soit la vitalité, la profondeur de toutes les expériences militantes de terrain que chacun, individuellement ou en groupe, peut mener à l'endroit où il vit et où il travaille. Mais je voudrais dire, et c'est mon dernier préalable, que mon propos est issu d'un travail que j'essaie de mener au niveau très modeste, mais au niveau théorique, puisque la décroissance, puisque le discours sur la décroissance se pose lui aussi en discours qui a vocation à devenir théorique. Donc j'effectue un travail théorique là-dessus, et c'est celui-là que je vais essayer de vous exposer. Et en disant, pour terminer ces préalables, que mon propre travail théorique est sujet, lui aussi, à critique, et il peut et il doit être soumis à la discussion. Alors, ceci dit, comment je vois les choses? D'abord, je dis très, très, très clairement que pour moi, la voie libérale est une impasse. Elle ne répond pas à la crise systémique majeure que nous traversons aujourd'hui et qui est une crise globale à la fois du capitalisme et du mode de développement qu'il a imposé. C'est une impasse parce que ni sur le plan social, il ne peut répondre à cette urgence, et évidemment, ni sur le plan écologique, car la relance que l'on nous promet maintenant considère qu'il est possible de perpétuer une fuite en avant que permet justement la circulation effrénée des capitaux. Et je m'écarte de la même façon de la vision officielle du développement durable, telle qu'elle est promue aujourd'hui par toutes les instances internationales et les plus grands lobbies économiques, parce qu'elle postule la croissance économique infinie comme étant possible grâce au progrès technique qui permet de substituer à l'infini les facteurs de production les uns aux autres, ce que l'on fabrique remplaçant ce que l'on épuise. Donc, et à par-dessus le marché, si je peux dire, la régulation est confiée à celui-ci. Donc on a là tous les ingrédients qui montrent les impasses également de cette notion officielle du développement durable. Alors, la décroissance, la théorie de la décroissance et la posture de ce mouvement, parce qu'elle assimile, de mon point de vue, comme la plupart des analyses libérales, la croissance et le développement humain en tout temps et en tout lieu, de mon point de vue, elle n'échappe pas à certaines critiques fortes, en tout cas elle nous oblige à interroger certaines de ses affirmations. Alors certes, un premier pas, et que je ne considère pas comme négligeable, a été accompli, peut-être d'ailleurs de part et d'autre, parce que nombre de théoriciens de la décroissance, et je rends hommage à Paul Ariès à mes côtés parce qu'il fait partie de cela, ont carrément et très clairement, sans ambiguïté, affirmé la posture humaniste de ce combat, et donc le combat en faveur de la démocratie, ce qui n'allait pas de soi au départ. Relisons un certain nombre de textes. Deuxième avancée, qui n'est pas négligeable non plus, c'est que maintenant commence à être précisé que le périmètre des diminutions doit faire partie de la discussion, c'est-à-dire on ne peut pas tout diminuer pour tout le monde. Donc ça, c'est un point que je considère également comme une avancée. Mais attention, ce point n'est pas encore admis par tous, notamment par le fait que l'on intègre dans le raisonnement la croissance de la population qui va encore intervenir à l'échelle mondiale d'au moins une moitié d'ici un demi-siècle. Et donc, on a encore nombre d'écrits nous disant qu'il faut diminuer la population, faut diviser la population mondiale par deux. Et là, je pense qu'il y a un point qui nous amène sur le terrain de ce que moi j'appelle, et n'y voyez pas quelque chose de péjoratif, mais quelque chose qu'il faut approfondir, ce que j'appelle les impensés de la théorie émergente de la décroissance. Et j'en dénombrerai six pour les classer et pour aller vite dans l'exposé introductif, et on y reviendra ensuite si vous le souhaitez. Premier impensé, sur les transitions à opérer et à imaginer entre une société qui mondialement est embarquée dans le train d'une croissance infinie et puis une société où on sortirait de ce train-là. Eh bien, je dis que ça va prendre des décennies et que penser les transitions est une condition indispensable. J'avais proposé la notion de décélération de la croissance comme première étape pour nous déconnecter à terme, pour déconnecter à terme l'amélioration du bien-être, de la croissance, de la production. Et je dis clairement et fermement que changer nos systèmes énergétiques, changer nos systèmes de transport, changer notre urbanisme, changer notre habitat, tous les urbanistes vous diront que changer un habitat complètement, ça prend au moins un siècle, eh bien ça va constituer les transitions que nous devons opérer. Et pour faire ces transitions, il faudra des investissements pour changer nos modes de système de chauffage, d'énergie, etc. Et je ne vois pas dans la phase de transition que ces investissements absolument indispensables, si on veut changer ces quatre systèmes-là, puissent se faire si la production diminuait globalement, pendant la phase de transition.
Thank you.
creusier même pensée sur la place de l'économie monétaire. Il y a eu, et là aussi je reconnais qu'il y a peut-être des avancées dont je tiens compte, mais il faut quand même reposer ce problème sur la place publique, l'impensé sur la place de l'économie monétaire. Il y a eu beaucoup de gens, et il y a beaucoup de gens encore qui croient que pour sortir donc de ce train effréné, il faut donc sortir de l'économie monétaire. Or, je ne cesse d'expliquer, la monnaie n'est pas qu'un instrument d'accumulation privée dans nos sociétés. C'est aussi, c'est ça, bien sûr, un instrument d'accumulation privée. Si j'ai plus d'argent que vous, je vais acheter votre force de travail et je vais m'enrichir sur votre dos. Mais la monnaie est aussi une institution sociale par laquelle passe la socialisation d'une grande partie de la richesse. Si j'ai un infarctus, parce que là je commence à m'animer, vous allez m'amener à l'hôpital. Personne ne va rémunérer en nature le chirurgien qui va m'opérer. En revanche, il sera rémunéré parce qu'il y aura eu, par l'existence d'une monnaie collective, la socialisation d'une partie de la richesse collective. Et lâcher ça, c'est lâcher tout un pan de ce que vous souhaitez justement quand vous parlez de la gratuité. Donc lâcher l'économie monétaire, c'est extrêmement dangereux parce que la monnaie, c'est peut-être quelque chose qui est dialectiquement ambivalent, mais c'est ainsi, c'est à la fois un instrument privé et nous combattons la privatisation du crédit de la monnaie, mais en même temps c'est aussi un instrument qui fait le lien social. Tous les anthropologues qui ont étudié les sociétés primitives notamment nous ont dit que la monnaie était une institution qui avait été inventée bien avant le capitalisme et donc qui dépasse l'histoire même de celui-ci par le biais justement de la socialisation du tissu social qu'elle est capable de créer. Troisième impensée sur la place du travail. Alors là, je relève une phrase: le capital n'a plus besoin du travail. Eh bien, je ne vais pas vous faire un long discours théorique pour montrer que c'est radicalement faux. Je vais simplement vous demander de regarder avec moi ce qui se passe en ce moment. La crise financière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la démonstration par les faits, la démonstration que la finance, que le capital, il est stérile. Et que lorsque la finance croit pouvoir s'exonérer de cette loi basique qui est simple comme bonjour, à savoir que seul le travail crée de la valeur économique, eh bien lorsque la finance croit pouvoir s'en exonérer, qu'est-ce que ça donne? Une bulle financière. Et une bulle financière, quelle est sa destinée? Eh bien c'est toujours d'éclater. Et voilà ce que nous avons eu à faire. La financiarisation, c'était la dégradation de la condition salariale, c'est-à-dire la réduction de la part de la richesse qui va au travail et l'explosion des profits financiers qui nourrissaient la bulle. Eh bien, la bulle a explosé parce que le capital est stérile. Jamais le capital ne pourra se passer du travail pour produire de la valeur économique. Et ce béaba, ce linéament de l'économie politique, de la critique de l'économie politique, c'est un des impensés sous-jacents à nombre de discours sur la décroissance et que l'on retrouve dans la proposition du revenu universel. Je suis pour, et j'ai fait adopter avec d'autres au sein d'ATTAC, la notion de revenu garanti à toute personne, indépendamment des aléas de l'occupation, de l'emploi. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de revenu monétaire qui ne provienne du travail productif qui produit la valeur monétaire que l'on distribue ensuite. Et ça existe déjà, le revenu garanti pour au moins une grande partie de la population. Et je vois d'ailleurs à la couleur de cheveux de certaines personnes dans la salle qu'elles en bénéficient, les retraités. D'où viennent les revenus versés aux retraités, sinon d'une redistribution de la part de richesse créée par du travail de quelqu'un d'autre, les actifs par définition. Ce qui montre bien que l'accusation qui nous a été lancée, notamment à ATTAC, lorsqu'on a défendu les systèmes de retraite par répartition, sur lesquels on voulait une société travailliste, c'est pas au nom d'une société où il faut faire travailler de force tous les individus que l'on défend l'idée que seul le travail produit la valeur. C'est simplement pour introduire l'idée de la réduction du temps de travail. Travailler tous ceux qui peuvent ou ceux qui veulent, mais beaucoup moins. Et là, donc, il y a effectivement une piste, et je salue le fait qu'il peut y avoir des convergences là-dessus, mais il faut bien voir que ça nous fait renouer avec quelque chose qui est aussi un des impensés de la théorie de la décroissance. Ça nous fait renouer avec l'économie politique, la plus vieille économie politique qui avait mis cette évidence que l'on sait depuis Aristote, c'est que seul le travail humain est capable de créer de la valeur économique.
C'est une mise en garde aux solutions simplistes. L'analyse économique, même décroissante, reste rigoureuse.
Le quatrième impensé qui découle un petit peu du précédent, c'est sur la conception de la richesse. Et là aussi, je pense qu'il faut faire un retour à la vieille économie politique et à la critique qu'en avait faite Marx quelques années après, à savoir cette distinction aristotélicienne fabuleuse entre valeur d'usage et valeur d'échange. Et donc, là aussi, on peut retrouver certaines choses que dit aujourd'hui Paul Ariès avec sa notion de mésusage, mais il y avait déjà tout dans la conception de l'économie politique. Donc, la valorisation, si je peux dire, ou la promotion de la valeur d'usage par rapport à la valeur marchande, par rapport à la valeur d'échange, ça, c'est l'un des chemins pour remettre en cause les rapports sociaux et les rapports de production capitalistes. Et il y a un lien entre les deux points que je viens d'évoquer, à savoir la place du travail et la notion de richesse que l'on met en avant. Parce que de la mise en relation de ces deux points découle la conception de la gratuité qu'on va avoir. Là aussi, terrain commun. Mais attention, la gratuité, elle ne tombe pas du ciel. Seule la lumière du soleil nous est gratuite, évidemment. Mais les gratuités qui existent dans la société, soit elles proviennent d'une augmentation tellement impressionnante de la productivité du travail que unitairement ça vaut, le coût de production vaut très très peu. Regardez les logiciels libres, pourquoi ils sont quasiment libres, pourquoi ils sont quasiment gratuits? Eh bien parce que le temps et l'effort de production est réparti sur une telle quantité que ça vaut au pin-up à l'unité, et donc on s'approche tendanciellement de la gratuité. Mais il y a une autre manière aussi de s'en approcher, c'est volontairement, socialement, politiquement, en décidant qu'on va socialiser une partie de la richesse produite, qui a un vrai coût. Le coût de la santé est énorme, le coût de l'éducation n'est pas mince, et donc la socialisation permet une certaine forme de gratuité dans la mesure où elle disjoncte l'utilisation du service de son paiement individuel. J'en suis donc à ma cinquième ou sixième et ma dernière manière de situer les impensés de la théorie de la décroissance, c'est sur la problématique de la transition sociale, de la transformation de la société. Je pense qu'il faut affirmer, Paul Ariès aussi y a fait allusion, donc j'en prends acte, de la nécessité d'inscrire nos projets dans des projets collectifs, et surtout de ne pas renvoyer la transformation de la société à la sphère individuelle. Il y a là une tendance qui est assez fréquente dans beaucoup de théorisations de la décroissance, à propos de laquelle j'appelle à prendre un minimum de distance. Je pense qu'il faut abandonner l'idée qui est très très conservatrice, selon laquelle nous aurions été dépossédés d'une nature humaine, nous aurions été dépossédés d'une essence humaine par la modernité, et essence humaine qu'il faudrait retrouver. Et là on voit comment peuvent se greffer tous les discours à caractère religieux ou spiritualiste. Je ne nie pas la spiritualité dans l'existence humaine, mais vous voyez comment on peut dévier rapidement d'un discours antimoderniste ou postmoderniste à quelque chose qui nous ramènerait à un stade pré-moderne, là pour le coup, et qui renvoie finalement à cette idée que on pourrait naturaliser les conditions sociales d'existence des humains, et qui relève de ce que Marx avait déjà parfaitement analysé comme étant du fétichisme. générale, c'est la redéfinition radicale de ce qu'on peut, faute de mieux, appeler un développement humain. Et là, je m'inscris tout à fait dans ce qu'écrivait noir sur blanc Nicolas Georgescu Rugène, qui est l'un des pères théoriques de courant de la décroissance, et quand, dans son livre qui porte ce titre d'ailleurs, qui a été publié dans les années 70, vous pourrez retrouver un texte extrêmement clair où il dit « c'est une erreur de confondre croissance et développement ». Et dans le discours de la décroissance, il y a cette assimilation que je trouve abusive, en tout cas que l'on ne peut légitimer que par le fait que la théorie libérale a tendu à nous faire croire que développement égalait toujours et éternellement croissance économique. Eh bien, c'est cette égalité qu'il faut rompre, et ça ne signifie pas qu'il faut renvoyer nécessairement dans les poubelles de l'histoire la philosophie des Lumières, la notion même de progrès humain, de développement humain, parce que faisons-le pour tout. Est-ce que la démocratie est toujours démocratique ? Est-ce que la justice est toujours juste ? Ben non, mais on n'a pas quand même rayé d'un trait de plume l'idée qu'il fallait être plus démocrate, ou l'idée qu'il fallait une justice qui fasse vraiment, qui rende vraiment la justice. Et c'est un petit peu pareil pour le développement. Et donc, à partir de l'idée de la réduction radicale des inégalités, parfait accord, il y a un revenu minimum, il faut un revenu maxi, évidemment. Et dans Attaque, une discussion a commencé à ce sujet. Ce n'est pas à nous à dire si ce sera de 1 à 4, ou 1 à 5, ou 1 à 10. Mais au moins poser la question, parce qu'en tout cas, ce qui est insupportable, c'est que dans les entreprises, les revenus varient d'une échelle de 1 à 100 ou 1000 ou parfois davantage. Donc, réduction des inégalités, réduction du temps de travail, à la fois pour donner un emploi, oui, pour donner un emploi à tous ceux qui le peuvent et qui le veulent, parce qu'il n'y a pas d'autre manière que de produire la richesse que nous utilisons. Une fois qu'on a redéfini cette richesse-là, évidemment, parce que l'un ne va pas sans l'autre, il ne s'agit pas de produire n'importe quoi, donc redéfinition des finalités du travail, parallèle à la redéfinition des finalités de la production, et ce qui nous ramène vers la discussion, qu'est-ce qu'il faut faire augmenter encore, il y aura des choses à faire augmenter, et qu'est-ce qu'il faut au contraire faire décroître, faire diminuer au sens propre des termes. J'exprime l'argumentation rigoureuse de la nécessité d'élargir la sphère non marchande, qui bien sûr a une empreinte écologique, mais rendez-vous compte que l'empreinte écologique de l'accès à l'éducation, par exemple, c'est quand même moindre que l'empreinte écologique du transport par camion ou du transport automobile tout court, ou des multiples productions qui n'ont pour but que de faire réaliser du profit à ceux qui ont investi. Et donc, la socialisation des biens communs d'humanité, la socialisation de la monnaie et du crédit, la crise nous en montre la nécessité, la re-socialisation de tous les services publics qui ont été privatisés, la re-socialisation de toute la protection sociale qui a été abandonnée aux fonds de pension et aux compagnies d'assurance, ça sont des voies qui permettent, je crois, de redéfinir autrement que par l'augmentation de toujours plus de produits matériels et de consommation matérielle, de redéfinir une voie de transition. J'avais commencé par là, je pense qu'il faut aussi conclure par là. Bref, je pense que nous sommes tous à la recherche d'une radicalité, et qu'il y a véritablement, comme l'ont dit Paul et Jean-Claude, une démarche anthropologique derrière toutes nos discussions, mais la prise de conscience de la nécessité d'avoir une réflexion de type anthropologique ne doit pas nous dispenser d'avoir une rigueur de raisonnement exemplaire au niveau économique. En tout cas, la gauche mouvementiste a besoin effectivement de clarifier beaucoup de ces thématiques, ça j'en conviens bien, mais elle a au moins le mérite d'essayer d'esquisser une manière d'approcher les choses qui permette aux citoyens de retrouver l'espoir.
Les réflexions de Jean-Marie Arribé vous ont peut-être paru un tantinet aride, mais elles mettent en évidence la difficulté que rencontrent ces mouvements décroissants à s'accorder sur un programme économique qui tienne en même temps compte de la réalité des chiffres et de la dimension anthropologique.